Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'ARAN, l'émission d'information locale de Canal B qui revient après une semaine de pause. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, une œuvre de street art en création cette semaine à Rennes, interview de Marie-Paul Bernicot pour annoncer un café de l'espace des sciences sur l'endométriose. Il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage d'Antoine Blécon, l'épisode 3 du podcast La vie au grand air. Et puis recommandation, une rencontre en librairie autour d'un ouvrage féministe. Bienvenue dans l'ARAN. Chaque jour, ça ne change pas, on débute l'émission d'information locale avec l'info du jour. Aujourd'hui, je vous parle de l'association MUR de Rennes, MUR pour Modulable Urbain Réactif. C'est la structure qui gère depuis 2019 le MUR situé au 34 rue Vasselot, où de manière régulière, des street artistes internationaux, nationaux et régionaux sont invités à réaliser des créations originales. De ce lundi 6 au vendredi 10 novembre, l'Office de tourisme Destination Rennes confie un autre mur à l'association, celui du couvent des Jacobins, côté rue des Changes. 60 mètres de long, laissé à l'Outsider, un artiste breton dont le vrai nom c'est Yann Lebert, et déjà venu au printemps sur ce même lieu pour démarrer un travail qui aboutira à 4 œuvres entre art urbain et art contemporain. Des médiations pour sensibiliser le public, notamment scolaire, sont organisées durant la création de l'œuvre et il est également possible de passer voir librement l'artiste qui, pour info, vient de terminer à Paris une œuvre sur le quai de la station de métro Châtelet. Pour plus d'infos sur la médiation, eh bien, il y a le site internet tourisme-rennes.com. Allez, après cette info du jour, c'est le moment d'une interview pour parler d'endométriose. En Bretagne, 65 000 femmes souffrent de cette maladie. Marie-Paul Bernicot, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes la coordinatrice de la filière de santé endo-braise et vous serez l'invitée d'un café de l'espace des sciences. Rendez-vous pour ça au Café des Champs Libres à Rennes, mercredi 8 novembre à partir de 18h30. Alors endo-braise est présenté comme un réseau de professionnels qui est assez récent puisque lancé en 2021. C'était quoi l'impulsion au lancement d'endo-braise ?
Alors l'impulsion, c'est un petit peu en précédant la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. C'est la volonté en fait des professionnels, notamment portés par le Collège national des gynécologues obstétriciens de France, de monter, de mettre en place des structures, des filières de santé pour accompagner la prise en charge de l'endométriose en France. Et c'est dans ce cadre-là que la filière bretonne s'est montée au fin 2020, début d'année 2021, avec une équipe régionale, pluriprofessionnelle et de nombreux établissements de la région, avec une représentation régionale pour monter cette filière de prise en charge de l'endométriose.
Une filière qui a été mandatée par l'Agence régionale de santé, et donc il y en a 8 autres aujourd'hui en France, des filières de genre, dont 4 en région parisienne. Alors l'endométriose, c'est une maladie chronique qui touche une femme sur 10. C'est aujourd'hui la principale cause d'infertilité en France, médiatisée en regardant un petit peu depuis un petit peu moins de 10 ans, notamment au départ avec des personnalités, des stars qui ont révélé être atteintes d'endométriose. C'est comme ça que le sujet, en tout cas que la parole a été un peu libérée sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer simplement ce que c'est l'endométriose ?
Alors l'endométriose, en fait, c'est une maladie qui est dite bénigne, gynécologique. En fait, c'est le développement de cellules de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Donc en fait, c'est au moment des règles, des cellules de l'endomètre qui vont migrer, refluer au travers des trompes pour venir s'installer dans la cavité péritonéale. Et ces cellules, une fois installées dans la cavité péritonéale, au lieu d'être détruites par le système immunitaire, vont se fixer et vivre pour elles. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont être hormonodépendantes. Donc chaque mois, elles vont être amenées à réagir comme si elles étaient dans l'utérus, comme si c'était des cellules d'endomètre dans l'utérus, sauf qu'elles ne sont pas dans l'utérus et que du coup, elles vont continuer à saigner et se fixer aux autres organes qui sont dans la cavité péritonéale.
Le rectum, la vessie, les ovaires aussi ?
Tout à fait. Donc il y a plusieurs formes anatomiques de l'endométriose. Il va y avoir fixé aux ovaires ce qu'on appelle les endométriomes, donc ils vont former comme des kystes. Il va y avoir une endométriose qui est dite plus superficielle, qui vont être les cellules qui vont venir tapisser les organes, le péritoine, les ligaments utérosacrés. Et puis il va y avoir ce qu'on appelle aussi l'endométriose pelvienne profonde, qui va venir se fixer vers la vessie, vers le rectum, et qui va pouvoir s'ancrer, en tout cas, venir se fixer sur ces organes-là et devenir adhérentiel. C'est ce qui explique les douleurs qui sont ressenties. Et puis la quatrième forme d'endométriose qui existe, c'est l'endométriose qui est dite utérine, c'est l'adénomyose. Donc c'est au niveau de l'endomètre, la muqueuse utérine, qui va se déformer en quelque sorte, puisque les cellules n'ont plus tout à fait le même aspect. Et c'est ce qu'on appelle l'adénomyose.
Vous évoquez des douleurs, donc des douleurs qui peuvent être très fortes hein, pour les patientes qui souffrent d'endométriose. Douleurs, alors on pense souvent aux douleurs menstruelles, mais c'est des douleurs qui peuvent être ressenties à d'autres moments du cycle.
Tout à fait. En termes de douleurs, on parle pour les femmes atteintes d'endométriose de 70% qui ont des douleurs invalidantes ou des dyspareunies. Dans les dyspareunies, ça va être les douleurs pendant l'acte sexuel. 50 à 60% des femmes qui sont atteintes d'endométriose, du coup, vont avoir une diminution de leur activité sportive du fait de ces douleurs-là, des troubles de l'appétit ou du sommeil. Et 30% d'entre elles vont avoir leur activité habituelle perturbée. Donc c'est un vrai handicap silencieux que d'avoir une endométriose avec des douleurs invalidantes. Donc on parle bien de 70%. Donc il y a aussi toute une partie des femmes atteintes d'endométriose qui n'ont pas de douleur. Et c'est l'endométriose qu'on dit asymptomatique et qui ne va pas avoir besoin d'être traitée puisqu'elle n'impacte pas sur la vie de la personne. Sachant qu'aujourd'hui, ce sont des traitements hormonaux qui vont venir contrecarrer l'évolution de la maladie ou en tout cas atténuer ses symptômes, mais on ne guérit pas de l'endométriose. Il n'y a pas de traitement pour guérir de l'endométriose.
On a parlé de la douleur, donc des douleurs pelviennes, donc dans le bas-ventre. Il y a aussi un impact parfois pour certaines patientes sur la digestion, aussi au niveau urinaire. C'est pas que des douleurs au ventre.
Tout à fait. Dans le spectre des symptômes de l'endométriose, pour les professionnels de premier recours que sont les médecins généralistes, les sages-femmes, on leur parle quand on fait les formations de la règle des 5D. Les 5D, ce sont les douleurs de règles, donc les dysménorrhées intenses, là qui ont vraiment lieu pendant les règles. C'est sur une échelle analogique sur laquelle on peut estimer la valeur, on est supérieur à 7. Donc on est vraiment sur un impact qui est résistant à des traitements antalgiques, qui peut entraîner un absentéisme au travail ou à l'école et qui du coup peut être associé à des malaises ou des vomissements. Donc ça, c'est le premier dé, les dysménorrhées. Ensuite, il y a les douleurs pendant les rapports sexuels, ce qu'on appelle les dyspareunies profondes, la douleur à la défécation, c'est ce qu'on appelle la dyschésie, avec la possibilité d'avoir du sang aussi pendant ce temps-là. Les symptômes urinaires sont appelés les dysuries. Et ces deux phénomènes-là ont une recrudescence pendant les règles. Donc c'est aussi un élément pour en prendre compte dans le cadre de l'endométriose. Et puis on va retrouver les douleurs pelviennes chroniques. Et là, effectivement, on est en dehors des périodes spécifiques aux règles, parce qu'en fait, ça peut être lié à une hypersensibilisation pelvienne et périnéale. Ça veut dire qu'en fait, à force d'avoir mal, on hypersensibilise le système nerveux et on commence à avoir de plus en plus mal et tout le temps. Un autre dé qui pourrait être rajouté, c'est effectivement les problèmes d'hypofertilité qui peuvent être liés à l'endométriose, à la façon dont la pathologie s'est installée dans le corps de la femme.
25 à 30% des patientes qui souffrent d'endométriose rencontrent des problèmes d'infertilité et ce sont justement parfois ces difficultés à avoir un enfant qui alertent la patiente lorsque l'endométriose est silencieuse. Vous en avez dit un mot, ce qui du coup peut être encore plus surprenant pour la patiente.
Oui, tout à fait. C'est une porte d'entrée. L'infertilité est une porte d'entrée pour révéler de l'endométriose. Vous l'avez dit, c'est 25 à 30%, voire 50% qui vont avoir une infertilité. Mais quand on est chez les femmes infertiles, c'est 70% qui ont de l'endométriose. Donc effectivement, il y a un gros enjeu au travers de, de ce repérage de la maladie pour la prise en charge de ces femmes et puis pour pouvoir justement aussi proposer de la préservation de la fertilité, d'autant plus tôt que la pathologie est avérée et diagnostiquée.
La première étape pour ces patientes, c'est donc le diagnostic. Il est long à poser, 7 ans en moyenne. Est-ce que justement les choses peuvent bouger quand il y a une filière de santé qui se constitue ?
C'est l'objectif. 7 à 10 ans aujourd'hui, effectivement, pour poser un diagnostic d'endométriose. Alors, la difficulté, c'est que ce sont des symptômes qui sont assez diffus, qui sont assez longs à corréler et faire en sorte que le diagnostic puisse être réellement posé. L'objectif, effectivement, comme de la filière, c'est d'améliorer la formation des professionnels, la connaissance et la reconnaissance de cette pathologie pour les professionnels de premier recours, pour les professionnels, les médecins généralistes, les sages-femmes, les gynécologues, pour qu'ils puissent proposer un traitement d'emblée, notamment hormonal, pour arrêter les règles, puisque ce sont les règles qui vont faire la dissémination des cellules endométriosiques, mais aussi pour prendre en charge la douleur. Puisque c'est ça qui est très important aussi dans les dysménorrhées, et notamment chez les adolescentes, c'est de ne pas laisser cette douleur s'installer, puisqu'elle peut être derrière cause d'hypersensibilité et de douleur pelvienne chronique. Mmh. Donc l'importance, effectivement, dans le cadre de la filière, c'est de pouvoir former ces professionnels-là, c'est qu'ils puissent prendre en charge en proximité les patientes qui viennent vers eux et qui leur annoncent des douleurs, qui leur disent que c'est source d'absentéisme, que c'est source de retentissement sur leur qualité de vie et qu'au travers de cette première prise en charge-là, on puisse limiter l'impact de l'endométriose sur leur vie.
Une question en plus sur la prise en charge, et donc des traitements hormonaux, des traitements plutôt antalgiques pour agir sur la douleur et dans certains cas, des traitements chirurgicaux aussi ?
Oui. 30 à 40% des femmes vont avoir un traitement chirurgical. Aujourd'hui, la chirurgie, c'est pas la priorité numéro une. La priorité est de prendre en charge et la douleur et via le traitement hormonal arrêter les règles pour éviter la maladie. Mais la chirurgie, elle va être dans le cadre d'atteintes profondes avec une endométriose complexe. Il est reconnu qu'il y a des récidives dans le cadre de la chirurgie. Donc, c'est pour ça qu'il est important aussi de choisir le bon moment de la chirurgie. On dit aujourd'hui qu'une chirurgie dans la vie devrait être suffisante. En revanche, il est important que la chirurgie, s'il y a un désir de grossesse et qu'il y a une indication à la chirurgie, que ça soit le cas, parce qu'il y a 50% de chances d'avoir un enfant à la suite d'une chirurgie dans l'année qui suit.
C'est une chirurgie qui vient détruire les muqueuses en question qui sont hors de l'utérus. C'est comme ça que ça marche ou...
C'est une chirurgie complexe qui a pour objectif d'enlever effectivement l'ensemble des adhérences, mais il faut tout enlever. Dans une chirurgie d'exérèse. Donc, il faut avoir une bonne cartographie des lésions, des gestes opératoires. C'est pour ça que dans des chirurgies complexes, on est sur des chirurgies pluridisciplinaires. Il peut y avoir des atteintes digestives ou urologiques qui vont faire qu'on va avoir besoin d'un chirurgien digestif en plus du chirurgien gynécologique qui va faire l'opération. Donc, il y a une importance à ce que ces dossiers-là soient très documentés, très bien expliquer à la femme aussi dans le cadre de sa prise en charge. C'est pourquoi dans les filières, on met en place des réunions de concertation pluridisciplinaires où on va venir discuter justement selon l'envie de la femme et son besoin aujourd'hui d'être prise en charge parce qu'elle a un désir de grossesse ou parce qu'elle est très 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 douloureuse, de prendre en charge et de savoir quel est le geste chirurgical, s'il y a geste chirurgical ou s'il faut mieux privilégier à nouveau le traitement hormonal en vue de. Donc il y a tout un travail effectivement au sein de la filière. Donc du coup là on est plus dans du niveau secondaire ou tertiaire de prise en charge où on va avoir un regroupement des professionnels dans le cadre de la prise en charge qui va être globale, holistique pour la femme.
En dernier recours, est-ce que l'ablation de l'utérus est parfois envisagée pour des femmes qui n'ont plus de projet de grossesse notamment ?
Elle peut être envisagée, effectivement.
On revient donc à la filière de santé endobraise que vous coordonnez, Marie-Paul Bernico. Comment est-ce qu'elle se matérialise, cette filière ? Il y a des locaux ici à Rennes, et puis il y a beaucoup de choses qui se jouent en ligne avec cet annuaire que vous avez construit, de professionnels qui sont formés. Mais il y a quand même une équipe qui est là pour coordonner avec des bureaux.
Alors aujourd'hui, en fait, l'association, puisque c'est une association loi 1901, donc elle fonctionne avec, avec un bureau, de professionnels de santé qui dirige la structure. Et moi, j'en suis l'unique salarié pour l'instant. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir apporter un espace d'information validé. C'est au travers du site internet qu'on va le retrouver, endobraise.com. Ce site internet est aussi un outil pour les professionnels et pour les patientes, d'y retrouver des professionnels de santé qui ont adhéré à EndoBraise. Et non seulement ils ont adhéré, mais ils ont accepté d'être sur l'annuaire, comme vous le disiez. Aujourd'hui, il y a 180 professionnels qui sont sur cet annuaire-là. Il n'y a aucune obligation pour un professionnel d'être sur l'annuaire. En revanche, pour être sur l'annuaire, il a dû adhérer à l'association, passer un e-learning de connaissances. Donc il y a un minimum de connaissances à avoir qui est validé par un quiz pour pouvoir être sur cet annuaire-là. On a plus de 320 professionnels adhérents à la filière. Il y en a un petit peu moins dans l'annuaire. Ce n'est pas un souci parce qu'en fait, c'est de se sentir prêt. Les professionnels qui sont sur l'annuaire, ce sont des professionnels qui vont se sentir prêts à écouter les patientes qui vont arriver vers eux en disant « j'ai une suspicion d'endométriose, j'ai des douleurs ». Et c'est ça qui est important aussi, puisque c'est ce qu'on disait un petit peu précédemment, c'est la prise en compte de la douleur de la femme et de ses difficultés et du retentissement sur leur qualité de vie qui vont faire qu'on va pouvoir commencer à rentrer dans la prise en charge de l'endométriose.
Ces professionnels de santé, ce sont des gynécologues, des médecins généralistes, des sages-femmes, mais aussi des chirurgiens, des kinésithérapeutes ou encore des psychologues. Et aussi, on retrouve des patients, des patientes en l'occurrence, qui sont engagés dans la filière de santé EndoBraise à travers des associations d'usagers, EndoFrance et EndoMind. Ça change quoi d'avoir des usagers dans un réseau ?
Les usagers sont aussi à l'initiative quasiment des structures, des filières qui existent aujourd'hui. C'est une forte demande de la part des associations. Elles ont été très acteurs de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été mise en place par annonce du président de la République en 2022 et pour laquelle nous avons accueilli à Rennes le ministre de la Santé pour le deuxième comité de pilotage national de cette stratégie. Elles sont très actrices parce qu'elles sont le porte-parole en fait des femmes atteintes d'endométriose. Donc c'est hyper important pour chaque filière de ne pas oublier pour qui on travaille, quelque part j'ai envie de dire, et de les avoir aussi comme soutien et comme rappel que y a des femmes qui souffrent de cette pathologie-là. On ne l'oublie pas, bien entendu, mais c'est aussi être en lien avec elles dans le cadre d'actions qui vont être menées. On soutient l'ensemble des conférences grand public qui vont être faites. On soutient l'ensemble en fait des activités menées par ces associations-là. Celles que vous avez citées, ce sont effectivement les deux grandes associations françaises de patientes. Il y a également Info Endométriose qui est porteuse plus des actions et des campagnes de sensibilisation autour de l'endométriose. Et puis partout en France, il y a des petites associations plus locales, mais qui ont aussi leur rôle à jouer dans le cadre de l'accompagnement de proximité des femmes. Et comme EndoMind ou EndoFrance, elles vont proposer des lieux d'accueil, des échanges entre pairs, parce que c'est aussi important de pouvoir apporter cette information-là, ces échanges qui construisent et qui nourrissent le parcours des unes et des autres dans le cadre plus global de leur prise en charge globale de la maladie.
On peut rester avec l'association EndoMind qui organise une course à pied pour récolter des fonds pour la recherche. Là, on se débute du mois de novembre il y a les hôpitaux privés de Saint-Grégoire, tout près de Rennes, qui participent à cette course à pied. Vous avez relayé l'événement, ce sera le dimanche 12 novembre à 10h et je crois que les habitants, les citoyens peuvent aussi participer depuis chez eux.
Oui, tout à fait. L'équipe endo-CHP, comme il l'appelle, va à une course effectivement qui démarrera devant l'accueil des hôpitaux privés rennais le 12 novembre. C'est la deuxième année où au moins qu'ils le font. Donc c'est l'ensemble des professionnels de l'établissement qui se mobilisent pour le faire, avec en fer de lance les deux chirurgiennes gynécologiques Sophie Laurent et digestif Julie Agostini, et toute l'équipe qui se joint à elle ensuite. Et c'est vrai que c'est important, cette course-là, elle est ouverte en virtuel au public. Tout le monde peut s'inscrire sur l'Endorun et décider de marcher, de courir. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et les fonds vont effectivement à la recherche. Cette course-là, elle existe depuis plusieurs années et c'est un des leviers des fonds pour la recherche sur l'endométriose qui est reversé derrière à la Fondation pour la recherche sur l'endométriose qui a été créée il y a quelques années aussi maintenant pour porter les projets de recherche sur l'endométriose et qui est porté sous l'égide de la FRM, la Fondation pour la recherche médicale.
Pour peut-être un jour espérer avoir un traitement pour guérir l'endométriose, ce qui n'est pas le cas, on le redit aujourd'hui. L'autre événement qu'on annonce ensemble pour terminer cet échange, c'est un café de l'Espace des Sciences pour parler de ces sujets-là d'endométriose. C'est mercredi 8 novembre à partir de 18h30 au Café des Champs Libres à Rennes. Vous ne serez pas seule, je crois, pour animer les
choses. Non, je serai accompagnée de Marie-Catherine Morin-Charbonnier, qui est gynécologue à Rennes et qui apportera également des réponses autour de l'endométriose. Et les dessous de l'endométriose, puisque c'est le titre effectivement du Café des Sciences.
D'une maladie, on lit dans le descriptif, qui existe depuis l'Antiquité, toujours largement méconnue aujourd'hui, et qui, si même la recherche avance, eh bien, ne permet pas d'avoir un traitement pour en guérir. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous qui est organisé en lien avec le numéro du mois de septembre de ce magazine Science Ouest, qui est la revue de l'Espace des Sciences. Je vous représente Marie-Paul Bernicot, vous êtes la coordinatrice de la filière de santé endo-braise, qui sera présente donc pour un café de l'Espace des Sciences au Champ Libre mercredi prochain ici à Rennes. C'est un rendez-vous qui est gratuit et sans réservation. Pour plus d'infos, il y a le site internet espace-science.org et on retrouve la filière de santé endo-braise également en ligne sur le site endo-braise.com. Merci beaucoup.
Merci.
Nusantara Beat avec le morceau Kota Bandung, une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B. C'est un single qui est sorti le 10 octobre sur les disques Bongo Joe et c'est en fait une reprise d'un classique indonésien des années 70. Alors vous avez de la chance, vous êtes tombé sur quelqu'un qui parle quelques mots d'indonésien. Kota Bandung, eh bien c'est la ville de Bandung à l'ouest de l'île de Java en Indonésie, ville à laquelle rendent hommage cette formation néerlandaise qui fusionne groove moderne et sonorité indonésienne traditionnelle, à écouter sur la scène des transmusicales le 6 décembre prochain. Vous êtes en train d'écouter La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B, sans doute branchée sur le 94.0, mais on peut aussi nous écouter en ligne sur canalb.fr. On continue cette émission avec un reportage. Et ce reportage, c'est le troisième épisode du podcast réalisé par Antoine Blécon, bénévole à Canal B. La vie au grand air, c'est le titre du podcast qui nous emmène sur les campements de personnes exilées ici à Rennes. Aujourd'hui, on va entendre Ange-Marie, une invulnérable, car le manque de place au 115, qui dépend de l'État, on le redit, oblige les structures d'accueil à effectuer un tri entre qui sera mis à l'abri et qui restera à la rue. Un tri moins évident qu'il n'y paraît, avec un critère qui pose question, c'est celui de la vulnérabilité. Ce portrait est donc le premier d'une série consacrée à ceux qui n'ont pas été retenus et qui resteront à la rue, des invulnérables.
Vous êtes en communication avec le 115 d'Ille-et-Vilaine. Il n'y a d'urgence sociale pour personne sans abri. Les données que vous nous transmettez seront saisies dans une application nationale.
Bonjour. Et là, vite la tente.
C'est difficile de dormir tout le temps ici. Il n'y a pas à l'école. J'ai qu'il a 20 ans.
La vie au grand air. Un podcast des campements rennais. Une émission proposée par Antoine Blécon. Épisode 2, Les Invulnérables, Ange-Marie. Cette semaine, nous allons nous atteler à une tâche titanesque. Tenter de comprendre les politiques publiques en termes d'hébergement d'urgence. Plus précisément, nous allons parler d'une notion particulièrement complexe, celle de la vulnérabilité. Contrairement au logement, le droit à l'hébergement est inconditionnel. C'est le Code de l'action sociale et des familles qui le dit. Dans un arrêté du 2 février 2012, le Conseil d'État consacre même le droit d'accéder à un hébergement comme une liberté fondamentale. Qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, qu'on ait des papiers ou pas, nous avons tous le droit d'avoir un toit au-dessus de notre tête. C'est vital. Seulement voilà, l'État, qui est responsable de l'application de ce droit, traîne un peu la patte. Attaqué régulièrement devant les tribunaux, il déclare faire tout ce qui est possible, mais que la charge est beaucoup trop lourde, voire insurmontable. Il convient peut-être de rappeler que la France est la 7e économie mondiale et que les 330 000 personnes sans abri, selon la Fondation Abbé Pierre, méritent un peu plus que des plates excuses. Mais passons. Au final, ce sont des structures locales qui doivent pondérer entre des situations indignes et un hébergement d'urgence nécessairement saturé. C'est là qu'intervient le critère de vulnérabilité. Sur le papier, ça peut sembler simple. Une femme seule, avec des enfants, est censément plus vulnérable qu'un couple. Une personne malade, plus vulnérable qu'une autre en bonne santé. C'est oublier un peu vite que nous parlons ici d'un droit fondamental et que comme tous les droits fondamentaux, on ne peut pas hiérarchiser son accès. Dit autrement, être à la rue est une vulnérabilité en soi. Celui qui est en bonne santé aujourd'hui a toutes les chances d'être gravement malade demain, du fait même de dormir à la rue. De la même manière, chercher les plus vulnérables parmi les vulnérables amène des questions pour le moins discutables. Est-ce qu'un nourrisson est plus vulnérable qu'un enfant? Est-ce que ça veut dire que c'est moins grave qu'un enfant dorme dehors? À partir de quand un nourrisson devient-il un enfant et peut donc dormir dehors? Ange-Marie est une mère de 4 enfants. Elle dort avec les deux plus jeunes au campement de Morpa. Elle n'est pas encore assez précaire pour une prise en charge. C'est notre invulnérable de la semaine.
C'est comment là? C'est pas mal ou c'est... Ça a l'air d'aller. Ok, c'est parti. Donc du coup, bonjour. Alors déjà, je vais vous demander de vous présenter, si vous voulez bien.
Je m'appelle Ange-Marie Sien. J'ai 43 ans, je suis mère de 4 enfants. J'ai mon aîné qui a 18 ans qui est à l'université. J'ai mon fils de 16 ans qui est à Ria Magda en formation. Et ma fille de 6 ans qui est en CP et celui de 17 mois.
Vous disiez là que tous les enfants étaient un petit peu malades.
Effectivement, c'est pas Jojo, c'est pas une gaieté d'être sous des tentes. Hein. On aurait voulu avoir une toile. Les tentes, c'est pour un camping, les vacances, quand il fait beau. Et voilà, mais aujourd'hui, rester sous des tentes au parc de Morpa, le froid, la pluie, c'est compliqué, surtout avec des enfants. Ouais. C'est vraiment, vraiment compliqué. Et les mauvais jours arrivent, on ne sait pas où mettre la tête. Et vraiment, on appréhende. On appréhende. Voilà. À 17 mois, mon fils n'est pas un cas de priorité qu'on pourrait héberger. Il a 17 mois aujourd'hui, il est malade, il est enrhumé, il tousse, il fait la fièvre. Peut-être qu'il aura une maladie au poumon, je ne sais pas trop, mais avec le froid qui arrive, je suis inquiète. Franchement, je suis inquiète et ça m'étonne qu'aujourd'hui, les enfants ne soient pas prioritaires. Avant, je pensais que les enfants d'abord et puis les autres après. Mais aujourd'hui, les enfants ne sont pas prioritaires et c'est comme si c'était voilà, une punition pour nous d'avoir fait des enfants.
Vous me disiez ça tout à l'heure, enfin, tout le monde commence à tomber malade en fait là.
Même la voisine d'à côté, sa fille a la gastro. Vous D'accord. imaginez la gastro en plein parc, on n'a pas de toilettes à portée de main. Elle me disait tout à l'heure qu'elle avait, la petite avait carrément sali tous les draps. Il n'y a pas d'endroit pour laver, il faut qu'elle aille payer 4,20 € pour laver. C'est compliqué, donc la gastro, un qui chope, deux, trois et c'est parti, tout le camp est contaminé. Le rhume, tout le monde, tous les enfants sont malades, ils toussent, ils sont enrhumés. C'est vrai qu'on va les mettre des doudous et tout ça, mais ils sont dehors. Les tentes, c'est pas chauffé, il n'y a pas de chauffage et tout ça. Donc, ils seront vraiment, voilà, exposés hein, à tout ce qui est virus.
Tu dis quoi? Tu as trouvé ta voisine, oh? Tu es avec ta voisine?
Ma voisine?
Il fait froid, il pleut, il n'y a pas de lumière. Ma fille fait plus ses devoirs. Moi, je suis à cheval, comme je le disais tout à l'heure, sur l'éducation de mes enfants. Mais si elle ne fait pas ses devoirs, elle ne suit pas comme les autres en classe. Et puis, peut-être que voilà, elle va avoir des lacunes avec lesquelles elle va progresser. Et puis, on ne pourra pas rattraper, peut-être ou pas. Donc, vraiment, c'est pas facile d'éduquer un enfant sous des tentes. Effectivement, c'est pas facile. Elle peut faire 3 jours sans se laver. J'essaye quand même de lui faire une petite toilette, mais la toilette, c'est pas se laver. Surtout, voilà, sous des tentes où ils ont tendance à jouer dehors au parc et tout ça. Donc, le soir, on fait une petite toilette, mais le lendemain, c'est compliqué pour aller se laver et c'est compliqué pour qu'elle soit propre pour aller à l'école. Donc elle est obligée de prendre 2 jours dans la semaine pour ne pas aller à l'école, pour aller carrément faire la toilette ou la douche dans des conditions vraiment compliquées.
Et puis vous m'aviez parlé aussi de la difficulté de l'hygiène en fait, de pouvoir se laver tous les jours, enfin, que c'est pas, en fait c'est juste pas possible quoi. Il faut choisir entre l'école et...
C'est ça effectivement, l'hygiène, on nous propose des endroits où il faut aller prendre des douches, c'est bien beau, mais ils ouvrent à 9h30. Les enfants répondent l'école à 8h30. Elle peut faire 3 jours sans se laver. J'essaye quand même de lui faire une petite toilette, mais la toilette, c'est pas se laver. Surtout voilà, sous des tentes où ils ont tendance à jouer dehors au parc et tout ça. Donc le soir, on fait une petite toilette, mais le lendemain, c'est compliqué pour aller se laver et c'est compliqué pour qu'elle soit propre pour aller à l'école. Donc elle est obligée de prendre 2 jours dans la semaine pour ne pas aller à l'école, pour aller carrément faire la toilette ou la douche dans des conditions vraiment compliquées.
C'est où les douches du coup? C'est au secours populaire ou
Bon, après chacun essaye de trouver une solution, mais nous on va à Eyol avec okay. l'SEA 35 et ils ouvrent à 9h30 jusqu'à midi. Okay. Donc on essaye d'y aller. Effectivement, c'est du lundi au dimanche, mais l'enfant ne peut pas prendre une douche le dimanche et puis rester jusqu'au samedi. Donc il faut que ça soit quand même régulier parce que après c'est une petite fille aussi, l'hygiène est importante, sinon après on commence à. Voilà.
Ça c'est piment, tu ne peux pas manger ça. C'est trop piment. Mmh.
Effectivement, j'ai une situation différente, peut-être, on va dire, de tous ceux qui sont là. Parce que moi, je suis en situation régulière. C'est la France qui m'a fait venir par regroupement familial. Donc, je suis à séjour indéterminé sur le territoire français. J'ai mon diplôme d'auxiliaire de vie, j'ai mon permis, j'ai la voiture, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre correctement. Mais la ville de Rennes ne m'ouvre pas les portes parce qu'ils disent que je suis venue précipitamment dans leur ville, donc que je mérite d'être dans la rue. C'est dommage parce que moi, j'aimerais travailler. J'aimerais que mes enfants soient posés et que je puisse aussi aller travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins. Parce qu'on dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais j'aimerais travailler pour pouvoir manger, pour pouvoir être bien sur le territoire français, quel que soit l'endroit où je me trouve en France, que je puisse vraiment m'en sortir. Et c'est dommage qu'on ne m'aide pas. C'est dommage. Ouais.
Vous faites quoi comme travail ?
Je suis auxiliaire de vie, mais en EHPAD, je fais les soins. D'accord. Et je devais aller en formation pour être soignante, pour devenir être soignante. Avec la situation, même me lever même pour aller au travail, c'est compliqué parce qu'il faut déposer les enfants à la crèche. Il fait nuit dehors au parc, la nuit à 8h, il fait encore nuit. Et à peine, on a peur, en tant que femme toute seule, dans un parc avec plein d'arbres, j'ai peur de sortir parce qu'il fait encore nuit à 8h. À quel moment aller déposer les enfants à l'école, le petit à la crèche, et puis aller travailler. Et moi, mon boulot, on commence à 6h. Si j'étais chez moi, je me lève, la petite au périscolaire, l'enfant à la crèche, et puis moi, j'allais travailler. Mais là, je suis handicapée, je suis vulnérable. Effectivement, je suis vulnérable parce qu'une femme toute seule sous une tente où il n'y a pas de cadenas, où il n'y a pas de crochet, tout le monde est exposé. Le parc a plusieurs entrées. N'importe qui peut venir faire n'importe quoi. Et j'ai peur.
C'était La Vie au Grand Air. Merci à Ange-Marie pour son témoignage. Et merci au collectif Tas de Fêtes pour le tour de chant et pour nous avoir fait oublier le campement le temps d'un dimanche.
قتلتيني قطعت مسكتيني زماني لغايب عن حياة الفرحة
Le franco-libanais Bachar Mar Khalife avec le morceau Yanas, morceau que je me passe en boucle depuis quelques jours après avoir vu le film Youssef Salem a du succès, un film de Baya Kasmi qui est sorti en salle en début d'année. Et ce morceau, eh bien, que vous venez d'entendre, il est à retrouver sur l'album Who's Gonna Get the Ball from Behind. C'est sorti en 2013 et c'est le deuxième des disques de Bachar Mar Khalife. L'Arène, l'émission d'info locale de Canal B, se poursuit. Et avant la recommandation du jour, si vous avez une action ou un événement à annoncer aux auditeurs, que ce soit avec une association ou autre type de structure, tant que la visée n'est pas purement lucrative ou marchande, vous pouvez m'en informer à l'adresse lucie@canalb.fr. Et ensuite, je reprends en contact avec vous pour vous proposer une interview ici en studio, un reportage sur le terrain, ou pourquoi pas d'en parler sous forme de recommandation. Et c'est l'heure. La recommandation du jour, ce sont des conseils de choses à voir, à lire, à écouter, souvent à vivre. Là, on annonce une rencontre en librairie avec Suzanne Joly, alias Suzette d'École Les Étiquettes. Formatrice à l'égalité fille-garçon et à l'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est aussi l'autrice au printemps 2023 d'un ouvrage, L'amour, la sexualité, on s'en parle. C'est le titre de ce livre qui est paru chez Magenta Éditions dans la collection Sans Tabou avec les illustrations de Clémentine Latron. Et ce livre, eh bien, il est au cœur d'une rencontre. Ça se passe mardi 7 novembre à 18h à la librairie La Rencontre. On est rue Georges Chaprac, ici à Rennes. Cette rencontre, elle est plutôt pensée à destination des adultes, parents et professionnels au contact des jeunes. Pour se poser les questions suivantes, qu'est-ce que le consentement? Quels sont les différents moyens de contraception? Faire l'amour, ça veut dire quoi? Et l'identité de genre et l'orientation sexuelle dans tout ça? Un livre qui parle donc de plein de choses et de sentiments aussi, avec des tests, des témoignages et puis des conseils. Morgane Soularu, ma collègue journaliste chargée d'éducation aux médias ici à Canal B, elle avait reçu Suzanne Joly en studio dans le cadre de son émission mensuelle Les Héroïnes. C'était au mois de mars. Je vous laisse avec un extrait de cette interview.
Pourquoi encore aujourd'hui ce sont des sujets tabous, notamment en France?
Moi, je pense que c'est parce que on projette trop notre vision d'adulte sur la sexualité. Et il faut revenir aux bases, c'est-à-dire au développement psychosexuel des enfants et des jeunes. C'est que ça fait partie, en fait, des apprentissages naturels de la vie, de découvrir son corps, de découvrir son sexe, de savoir à quoi il sert. Il ne sert pas que à se reproduire, il sert à uriner, à prendre du plaisir, etc. Et ça, en fait, c'est juste naturel, c'est le fonctionnement de nos organes génitaux. Et donc, il faut briser les tabous par rapport à ça.
On a tendance, comme dans beaucoup d'autres domaines, donc à calquer ce que nous on ressent adultes sur les enfants et à penser qu'ils pourraient avoir les mêmes envies, les mêmes idées et que ben il faut se faire attention, voire se méfier quoi.
Ouais, en fait, on pense que ça va créer de la confusion ou alors des questionnements qu'ils n'ont pas encore, mais c'est faux. Ils ont déjà ces questionnements, donc il faut pouvoir y répondre. C'est une curiosité encore une fois qui est naturelle et qu'il faut pouvoir satisfaire. Et le but, c'est évidemment pas de rentrer dans des discours pornographiques ou très techniques sur la sexualité partagée avec quelqu'un. Non, c'est juste de faire de la prévention. Donc encore une fois, parler d'amour, de sentiments, de plaisir, parler d'attirance envers le même sexe ou pas, de parler de consentement, de contraception, etc. Et donc tout ça, c'est juste donner en fait la boîte à outils
pour une sexualité qui est saine, qui est respectueuse. Et donc, plus on donne d'outils, et mieux c'est. Et la répétition est très importante dans ces situations.
Oui, répéter et ne pas hésiter à répondre aux questions. Ça peut prévenir aussi bien des violences sexuelles, mais aussi des agressions parce qu'on a une orientation sexuelle qui déplaît à certains. Ça prévient tout ça également et c'est important dans nos sociétés où on constate que les féminicides sont toujours là, les viols sont toujours là et même augmentent.
L'arène, c'est terminé. Une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Et pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.